Allez, à l'occasion des nouveaux pourparlers qui sont en train de s'achever à Genève entre la Russie et les États-Unis pour tenter de faire baisser la tension en Ukraine, on va à présent se poser cette question. Aujourd'hui, plus qu'hier, y a-t-il en Ukraine justement un risque réel d'intervention russe, alors qu'on disait jusqu'à récemment encore que Moscou bluffait pour faire monter les enchères avec les Occidentaux? Les choses ont-elles changé? On en parle tout de suite avec Jean de Glignasty. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, hein, l'Institut de Relations Internationales. Jean de Glignasty, ancien ambassadeur de France en Russie, auteur également d'un ouvrage qui s'intitule « La petite histoire des relations franco-russes » paru aux éditions Inventaire. Jean de Glignasty, est-ce que vous diriez qu'une invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est aujourd'hui une hypothèse beaucoup plus sérieuse qu'il y a quelques semaines encore ?
Écoutez, je ne pense pas. Il y a toujours eu un risque. Il y a encore un risque que des incidents dégénèrent, provoqués de part ou d'autre. Il y a des têtes folles, des têtes brûlées en Ukraine, et il y a des partisans en Russie d'une invasion de l'Ukraine et qui reprochent en fait à Poutine de ne pas l'avoir fait en 2014. Donc ça a toujours existé. En fait, nous sommes dans un processus de négociation en trois parties, si je puis dire. Il y a une négociation politique sur l'OTAN, une négociation sur les forces conventionnelles et tout ça, et une négociation sur les forces nucléaires. Ça, c'est les trois composantes du projet de traité qu'ont proposé les Russes. Donc, soit la négociation s'engage, et à ce moment-là, nous sommes encore dans le schéma de concentration militaire pour montrer qu'on est sérieux, et des menaces du côté américain en disant les représailles seront plus terribles que jamais. Soit la négociation s'arrête, et à ce moment-là, effectivement, le risque est sans doute plus grand. Mais je pense que c'est l'intérêt des deux parties de négocier. Les Russes, parce qu'ils perdent du terrain, notamment sur le plan sécuritaire en Ukraine, qui est en train de s'armer, en dehors même de la question de l'adhésion à l'OTAN, à une coopération très, très intense avec l'OTAN. Donc plus le temps passe, plus l'Ukraine sera un morceau difficile à avaler et de plus en plus hostile à la Russie. Et du côté des Américains, parce que les Américains ne veulent pas s'encombrer d'une guerre en Europe, leur sujet, c'est la Chine.
Oui, mais Jean de Glignasty, à l'instant, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères à Genève, il déclare qu'il attend une réponse américaine aux exigences de Moscou, je le cite, la semaine prochaine. Est-ce que ça, c'est pas une forme d'ultimatum quand même ?
Oui, on peut qualifier ça d'ultimatum, mais il y a quand même beaucoup de gesticulations. Hein. Ça dépend comment il attend la réponse. Est-ce que c'est un processus de négociation ? Est-ce que c'est un projet de traité alternatif ? Attendre la réponse, ça veut dire que c'est pas apprendre à la laisser, ça veut dire qu'on négocie, qu'on attend la réaction de l'adversaire pour en parler, etc. Donc nous sommes toujours dans un processus de négociation.
Si ce n'est pas une opération massive des Russes en Ukraine qui pourrait avoir lieu, est-ce qu'on pourrait alors envisager, et peut-être que ça a déjà d'ailleurs commencé, hein, des opérations plus ciblées, des interventions plus ciblées, peut-être par des cyberattaques, par de la désinformation, par la divulgation de fake news par exemple ?
Oui, mais ça fait longtemps que c'est comme ça. Ça n'a jamais cessé, en fait. Hein. Ça n'a jamais cessé. Au niveau de ce qu'on appelle maintenant la guerre hybride, l'Ukraine a été la cible permanente de la Russie, hein, depuis longtemps déjà. Si, et elle riposte de son côté par d'autres moyens.
Hein. Aujourd'hui, si d'aventure la Russie décidait finalement de passer à l'action, d'envahir l'Ukraine, quelle pourrait être sa justification ? Comment elle pourrait justifier finalement une telle opération, une telle invasion ? Ce serait quand même compliqué, non ?
Ben, je crois, oui, ça serait contraire au droit international, ça serait contraire à tout ce que la Russie répète depuis longtemps, à savoir respect des frontières, intégrité territoriale et droit à autodétermination des peuples, même s'il y a des aspects contradictoires dans ces principes. Donc, en droit international, ça serait indéfendable. Donc, de toute façon, si vraiment il y avait intention d'envahir, ce que je ne crois pas personnellement, on susciterait des incidents pour justifier une éventuelle attaque. Hein, comme ça, de but en blanc, c'est pas possible.
Et à ce propos, il y a des scénarios qui sont actuellement à l'étude en Occident pour anticiper cette éventuelle attaque, cette éventuelle invasion.
Oh, j'imagine, bien sûr, oui, bah, les états-majors réfléchissent à ça, l'OTAN, en France, en Allemagne, partout, ça fait partie des hypothèses, hein. Mais je ne crois pas que même, alors c'est sous réserve, hein, je parle des informations de premier plan, mais je ne pense pas qu'on considère qu'une invasion russe de l'Ukraine soit l'hypothèse la plus probable. Ça sera très difficile pour la Russie d'envahir l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas dans l'état où elle était en 2014, elle a une armée, elle a des milices populaires, elle a des moyens, elle a des alliés, des soutiens. Et puis, l'opinion ukrainienne commence à devenir vraiment en majorité anti-russe et patriote ukrainien, ce qui n'était pas le cas en 2014. Donc, la situation n'est pas très favorable à une invasion de l'Ukraine.
Merci beaucoup, Jean de Glignasti, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, hein, et ancien ambassadeur de France en Russie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.